Et à 18h sur France Culture, le journal vous est présenté par Adrien Toffolet.
Bonsoir à tous. La majorité présidentielle se lance officiellement dans la bataille des européennes. Meeting à Lille cet après-midi pour la tête de liste. Valérie Ayé, entourée de presque tous les membres du gouvernement. Gabriel Attal en tête, qui a fustigé la vaste tromperie du clan Le Pen dans l'espoir de rattraper son retard sur la liste Rassemblement National en tête des intentions de vote. Le milieu marseillais perd l'une de ses têtes. Félix Bingui, l'un des narcotrafiquants marseillais les plus importants, a été arrêté hier au Maroc et devrait être extradé rapidement vers la France. Est-ce un grand coup porté au narco-banditisme comme le salue Gérald Darmanin? Réponse d'un de nos experts du crime organisé. Dans l'actualité également, le non qu'il emporte en Irlande lors du double référendum visant à moderniser les références à la famille et la place de la femme dans la constitution irlandaise. Un revers important pour le Premier ministre qui a porté ce référendum. Et puis, nous nous intéresserons à cette annonce du géant de l'agrochimie Bayer, propriétaire de Monsanto, qui dit travailler à l'élaboration et la mise sur le marché d'ici 4 ans d'un substitut révolutionnaire au glyphosate, l'herbicide qui lui vaut des milliers de procès. Presque tout le gouvernement est donc réuni cet après-midi à Lille, dont le Premier ministre Gabriel Attal, mais plus largement, c'est toute la majorité présidentielle, Renaissance, Horizon, Modem, qui est en ordre de bataille pour le lancement de la campagne en vue des élections européennes de juin prochain. Premier meeting de la tête de liste, Valérie Ayé, très entourée, donc vous l'aurez compris, comme pour renforcer la notoriété de celle qui est députée européenne depuis 2019, mais reste peu connue du grand public. Bonsoir Rosalie Lafargue.
Bonsoir.
En direct de Lille, et l'objectif à présent pour la majorité semble particulièrement ambitieux, tenter de rattraper leurs dizaines de points de retard sur la liste du Rassemblement National menée par Jordan Bardella.
Oui, Valérie Ayé arrive au bras du Premier ministre, enchaîne photos et embrassades sous les applaudissements et les mots encourageants de la députée du Nord, Violette Spielboot.
Notre fierté, notre tête de liste, notre femme puissante, influente, Valérie Ayé.
Si c'est bien elle la star du jour, ce n'est pas son nom qui revient le plus dans les discours. Le ministre Gérald Darmanin enchaîne les tacles.
Le programme du Rassemblement National,
ce que Madame Le Pen,
voilà ce que donne la démagogie du Rassemblement National. Pour nous qui allons en Belgique aussi facilement que Madame Le Pen va à Moscou, car le RN dit des problèmes.
Mais la plus lourde charge viendra du Premier ministre Gabriel Attal.
Ils cherchent par tous les moyens à ne plus faire peur. Et s'ils font moins peur, ils feront toujours autant de mal. Alors je le dis aux classes moyennes françaises, je le dis aux jeunes comme aux retraités, à ceux de nos compatriotes qui peuvent parfois être tentés. Ne tombez pas dans le piège. Ils ont toujours dit non à l'Europe. La seule différence maintenant, c'est qu'ils le cachent un peu et que le non s'est transformé en niette.
L'heure est grave, insiste le chef du gouvernement, dramatisant les enjeux d'un scrutin désormais entre les mains côté majorité de Valérie Ayé, qui a bien reçu le message.
En me choisissant, la majorité a fait un choix résolu. Le choix de la jeunesse et de l'audace. Ne laissons pas l'Europe aux mains de ceux qui veulent sa mort.
Rien n'est perdu, veulent croire les troupes de la majorité réunies et motivées, vous l'entendez ici à Lille, même si l'objectif ne semble plus tant de l'emporter face au RN le 9 juin que, selon l'aveu d'un cadre de la campagne, de faire en sorte autant que possible de limiter la casse.
Rosalie Lafargue en direct de Lille avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Pour les autorités françaises, c'est l'un des narcotrafiquants marseillais les plus importants du milieu qui vient de tomber. Félix Bingui, âgé de 33 ans, chef présumé du clan Yoda, a été arrêté hier à Casablanca, au Maroc, où il se cachait depuis qu'un mandat d'arrêt avait été émis par les autorités françaises l'été dernier pour trafic de stupéfiants. Son gang est notamment au cœur de la guerre du narcotrafic qui a fait plusieurs dizaines de morts dans la deuxième ville de France. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, salue sur X un grand coup porté au narco-banditisme. Même réaction de la part du maire de Marseille, Benoît Payan, pour qui s'attaquer à la tête de la pieuvre est la priorité. Mais l'arrestation de Félix Bingui est loin de résoudre le problème, tempère Fabrice Rizzoli, docteur en sciences politiques et spécialiste de la grande criminalité.
Il y a deux hypothèses. Soit celui qui va venir après lui, parce qu'il y en aura un, aura la volonté que cesse notamment le cycle de violence qui a conduit à près de 20 ou 25 homicides rien que pour la cité de la Paternelle l'année dernière. Et donc, une des conséquences que ça pourrait avoir, c'est qu'il y ait moins de règlements de compte qu'il y en a eu l'année dernière. où on a battu des records. La deuxième hypothèse, celui qui arrive veut en découdre aussi avec le gang adverse et ça ne change rien. Sur le trafic, non, ça ne changera rien. Le trafic de drogue, c'est 3 milliards d'euros par an en France. Il y a un marché de consommateurs bien installé. Marseille a une spécificité et un savoir-faire depuis maintenant plus de 70 ans sur les grands trafics, par son port, par sa région Carrefour avec l'Espagne. Si le gang Yoda disparaît, c'est un autre qui va venir. Ça, c'est certain, c'est ce que démontre l'histoire de 20 années du narco-banditisme des cités à Marseille.
Fabrice Rizzoli, joint par Servane de Pastre. L'arrestation du mafieux marseillais est loin d'être la seule ces derniers jours au Portugal. C'est l'un des membres de la Camorra, la mafia napolitaine, qui a été interpellé, un Italien de 69 ans, dont plus de 20 ans passé en cavale sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. En Irlande, c'est un revers pour le Premier ministre Leo Varadkar. C'est le nom qui ressort en tête du double référendum qui s'est déroulé hier, Journée internationale des droits des femmes. Projet à l'initiative du gouvernement visant à moderniser les références à la place des femmes et de la famille dans la constitution irlandaise. D'après les premiers dépouillements, les amendements proposés et donc l'espoir de voir leur texte suprême modifié sont tout simplement rejetés, Clémence Pénard.
Le nom est clair à ce stade. Les mots du Premier ministre irlandais Leo Varadkar, le ministre de la famille Roderick O'Gorman, avoue quant à lui qu'il s'agit d'un échec. C'est un coup dur pour le gouvernement qui a porté ce double référendum qui visait deux objectifs. D'abord, étendre la définition constitutionnelle de la famille au-delà des relations basées sur le mariage. Et puis, deuxième volet du référendum, supprimer un article faisant référence au devoir des femmes à la maison, ou plutôt le reformuler pour reconnaître le rôle essentiel des aidants au sein des familles qui s'occupent des parents âgés et ou souffrants et des enfants handicapés. Insuffisant pour certains aidants car le libellé du nouvel article n'entraînait aucune obligation légale pour l'État de réellement les soutenir. Pour beaucoup d'Irlandais, les nouvelles formulations choisies n'étaient tout simplement pas assez claires, ce qui expliquerait la faible participation au double référendum. Elle n'a pas dépassé les 50%, contrairement au référendum sur l'assouplissement de l'avortement ou sur le mariage gay, pour lesquels les Irlandais avaient alors largement voté.
Au Portugal, c'est demain que les électeurs sont appelés aux urnes, élections législatives, qui pourraient mettre fin à 8 années de gouvernement socialiste. L'opposition de centre-droit est donnée légèrement en avance dans les sondages d'opinion et le jeune parti d'extrême droite, Chega, pourrait être également bien parti pour confirmer son statut de troisième force politique du pays. À Gaza, les habitants de l'enclave palestinienne attendent l'arrivée d'aide humanitaire, en plus des largages aériens menés par plusieurs pays arabes et occidentaux, dont les États-Unis et la France. Un premier bateau chargé de tonnes de nourriture, d'eau et de fournitures vitales pour les civils se tient prêt à partir, en théorie dès demain, via corridor maritime depuis Chypre, comme espéré par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le glyphosate a toujours été défendu comme indispensable à l'agriculture, car sans alternative. Mais alternative, il y aura peut-être bientôt, si l'on en croit l'interview publiée dans la presse allemande de Bill Anderson, le patron du géant de l'agrochimie Bayer, propriétaire de Monsanto, qui a façonné l'agriculture depuis les années 70 avec son herbicide, aujourd'hui classé cancérigène probable par l'OMS. Le glyphosate a pourtant été réautorisé dans l'Union européenne pour 10 ans, fin 2023, mais la menace de dizaines de milliers de procès aux États-Unis pousse Bayer à chercher lui-même son remplaçant, Hugo Flotatalon.
Bayer travaille à l'élaboration d'un nouvel herbicide, produit déjà testé en ce moment sur de vraies plantes, dit Bill Anderson dans une longue interview au journal FAZ. Il s'agit de la première innovation révolutionnaire dans ce domaine depuis 30 ans, assure le patron de Bayer. L'entreprise espère commercialiser son produit en 2028. Ce serait une manière de sortir du glyphosate, produit qui asphyxie financièrement l'entreprise aux 100 000 salariés depuis le rachat de Monsanto en 2018. Car Bill Anderson assure toujours que le glyphosate est sûr, mais l'OMS l'a classé comme probablement cancérigène. Et Bayer fait face à des dizaines de milliers de plaintes dans le monde. 54 000 rien qu'aux États-Unis étaient encore en cours fin janvier. Résultat, l'entreprise dépense des milliards pour sa défense, accumule une dette de près de 35 milliards d'euros et le cours de ses actions à la bourse s'est effondré ces dernières années. De 100 euros en 2015, il est à 20 euros aujourd'hui. Le géant allemand, avec des employés dans 80 pays, veut donc innover pour s'en sortir. Bill Anderson annonce aussi vouloir conclure des accords hors des tribunaux pour s'éviter des procès. Des licenciements en poste de direction sont aussi prévus d'ici l'an prochain pour faire des économies. mais le patron de Bayer se refuse à dire combien jusqu'à présent.
Un mot de la météo du jour avec à 7h 10 départements actuellement en vigilance orange. La Charente-Maritime, la Gironde, l'Ardèche, le Gard, l'Hérault et le Var pour crue. La Loire et la Haute-Loire pour vent. Le Var, l'Ardèche, la Lozère pour pluie-inondation. Et enfin les Alpes-Maritimes qui cumulent pluie-inondation et avalanche. Le temps demain, une moitié nord plutôt grise le matin avec du soleil sur la pointe bretonne, en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne et en Méditerranée. De la pluie sur le nord, l'Île-de-France, les Alpes et la Corse. Dans la journée, les nuages gagneront quasiment tout le pays. Risque d'orage autour de Lyon, Grenoble et Gap. Les températures matinales évolueront entre 5 et 8 sur la moitié nord, entre 6 et 13 sur la moitié sud. Ce journal a été préparé avec Caroline Benetto. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 7h.